à toutes et à tous. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Tom de la Maladisque. Il souhaitait nous présenter la prochaine édition du Disque RD qui aura lieu ce samedi 20 avril. Salut à toi Tom, on est là pour parler du Disque RD. On peut peut-être commencer par une question simple. Concrètement, c'est quoi le Disque RD ? Est-ce que tu peux nous le rappeler ?
Alors le Disque RD, c'est un événement qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, un peu moins, plus ou moins 15 ans, 14 ou 15 ans. En France, ça s'appelle donc le Disque RD, mais ça existe aussi à l'international avec le nom de Record Store Day. Et en gros, alors à la base, c'était vraiment un truc pour les puristes, avec vraiment seulement les tout petits labels, les tout petites chaînes de distribution qui participaient, et les tout petits disquaires. En France, il n'y avait à la base qu'une trentaine de boutiques, dont la Maladisque que vous connaissez à Amiens, évidemment. Et voilà, donc l'idée c'est que pour les diggers, entre guillemets, il y avait des éditions très très limitées, des éditions de luxe, des rééditions d'albums qui sortaient, des choses qui n'étaient jamais sorties. Par exemple, dès les premières années, il y a France Radio et la Dami qui ont fait des sessions uniques. Donc des 45 tours qui sont sortis en édition très très limitée, hein, à 500 exemplaires je crois pour la plupart, où on retrouvait, il y a deux ans on a pu retrouver Alain Chamfort et Arthur Théboul ensemble, voilà des choses comme ça. Il y a eu MC Solar aussi qui est passé, Fuzati du Club des Losers, enfin voilà pas mal de choses très rares, très attendues ou inattendues justement, mais en tout cas qui faisaient plaisir aux diggers du monde entier.
Concrètement, on peut avoir l'image parfois des disquaires mourants qui ne vendent plus de CD et de vinyle, et pourtant paradoxalement bah, vous êtes là et vous êtes toujours là depuis des années. De ton point de vue, comment ça se passe actuellement pour les disquaires, voilà. Toi, quel est ton point de vue sur cette industrie de la musique et sur la vente de CD et de vinyle en physique?
Alors c'est une question qui est très large, et la réponse elle est forcément 50-50, c'est-à-dire que y a un essor du vinyle qui fait du bien évidemment au business entre guillemets. Parce que le vinyle a quand même été mourant au début des années 2000. De toute façon, suffit de regarder, c'est con, hein, mais les albums, les gros albums qui sortaient entre 2004 et 2010, il n'y a pas forcément d'édition vinyle pour ces albums-là, et c'est pas pour rien, hein, ils ont essayé de totalement changer le business. Après, au bout d'un moment, le vinyle est revenu, et c'était plus pour une espèce de... Bah, encore une fois, des gros diggers, et maintenant, ça s'est ouvert clairement au grand public, hein, beaucoup de gens de notre génération, des gens de 20 ans, des gens de 18 ans, même par exemple, je prends l'exemple de Taylor Swift, les fans de Taylor Swift qui sont très jeunes, mais qui achètent tous du vinyle. Donc voilà, après, parallèlement à ça, il y a un problème qui se pose, c'est que les grosses machines, les grosses industries, hein, Sony, Universal, Warner, pour ne pas les nommer, vont pousser le business du mauvais côté, c'est-à-dire qu'ils vont drastiquement augmenter leurs marges et sous couvert de matières premières qui coûtent de plus en plus cher, ce qui n'est pas forcément vrai quand on sait pour quel prix ils produisent leurs disques, et quand on voit le ratio qu'ils se font, enfin les mecs ils se font autant de thunes que Nike quand ils vendent une paire de baskets. Donc il y a un business en plein essor. Néanmoins, tu vois, nous, au niveau des chiffres, on a quand même été obligés en septembre de commencer à vendre sur Internet pour pouvoir vivre à deux dans la boutique. Et on est quand même smicard. Donc y a un regain d'intérêt qui est évident et qui fait vraiment plaisir. Et voilà, maintenant, c'est un business qui n'est pas du tout suffisamment régulé. Les disquaires n'ont pas un poids suffisant. Il n'y a pas de syndicat du disque aussi puissant que dans le livre, on n'a pas la TVA 5,5 pour les produits culturels, et ça fait que du coup il y a des inégalités qui sont énormes entre les grosses chaînes de distribution, les gros labels aussi comme Universal qui vendent en direct sur leur site certains produits auxquels les FNAC ou même les disquaires n'ont pas accès, et du coup il y a un vrai regain d'intérêt, mais énormément de choses, de paramètres qui font que ce business n'est pas suffisamment régulé pour que les disquaires qui sont des passionnés puissent assez bien en vivre. Voilà.
Et une bonne façon d'en vivre aussi, c'est ce que vous faites à la malle, c'est de s'ouvrir, c'est de faire les choses aussi différemment. Et c'est pour ça que ce disquaire est chouette, parce que vous allez aussi proposer une journée de concert en parallèle de la vente de ces éditions un peu particulières. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la programmation de ce samedi 20 avril?
Ouais, bien sûr. Alors pour nous, depuis la naissance du disquaire D, il y a des concerts qui se font à la boutique. Au départ, c'était un ou deux groupes qui venaient jouer. Maintenant, on est vraiment quasiment sur un mini-festival, en fait, sur toute la journée. Donc, on a déjà eu pas mal des grosses têtes d'affiches amiénoises sur les années précédentes. Sur cette année, je me suis occupé de la programmation et on a essayé. Alors, le but, c'est toujours de mettre en avant la culture locale. Et on a essayé d'être le plus large possible au niveau des styles musicaux qui seraient représentés. Donc, alors à la base, il devait y avoir un DJ, le Disque Jockey, que je vous recommande vivement de suivre sur les réseaux sociaux, mais qui aujourd'hui même m'a annoncé qu'il ne pouvait pas venir à cause d'un gros souci. Donc, ça s'est annulé. Par contre, dans l'après-midi, donc de 14 à 18 h devant le magasin et au Charleston pour certains concerts, on pourra retrouver dans un premier temps Sacha, jeune rappeur amiénois avec des textes, ma foi, très sympathiques. J'ai plus l'ordre de la line-up exact, mais c'est pas grave. Après Sacha, il y aura Pire que Pierre, qui est un projet débutant de Pierre que vous avez pu retrouver dans différents groupes amiénois, un hein, Megasurf ou Last Night We Killed Pineapple. Donc là, on va être sur un truc plus pop que ce qu'il fait avec ses groupes, formule plus intimiste que vous pourrez retrouver à l'intérieur du Charleston. Il y aura également Eskawan, que je pense pas mal d'Amiénois connaissent, hein, dans le milieu underground. C'est un gars qui écume pas mal les squats, l'accueil froid et ce genre d'endroit. On va être sur du rap plutôt engagé, un peu farfelu, qui tend vers la drum and bass, qui tend vers le reggae, etc., qui est très intéressant, mine de rien. On va retrouver également, pour la partie jazz, il y aura David Catel, qui est un pianiste dont le dernier album a tout de même été enregistré dans le studio du Label Bleu, dans le studio Jill Evans. Donc, voilà, un petit nom très important dans la culture jazz locale. On pourra retrouver également Go, un groupe de rock plutôt large, très électrique, tenu par. C'est un groupe de cinquantenaires que beaucoup d'habitués du Saint-Germain et du BDM pourront reconnaître. Et voilà, encore une fois, c'est là que je voulais avoir la proposition artistique la plus large, et même au niveau de l'âge en fait, des artistes qui viennent jouer pour attirer de toute façon le plus de public et le plus d'intérêt chez les gens. Et donc le soir au Charleston, on pourra retrouver dans la continuité d'Audeleur. Donc, voilà, un rappeur entre Amiens et Bruxelles, bon petit découpeur de prod. Ensuite, il y aura en tête d'affiche Étienne Détré qui fera sa release party amiénoise dans son album donc, qui est sorti là en fin de mois dernier. Donc, de la pop bien brillante, plutôt sympathique et souriante. Et pour clôturer la soirée, on aura Adam El Mutant en full band. Donc là, sur de l'indie rock. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie locale, avec une programmation éclectique, dont une partie aura lieu dans la cour de la Maladisque et l'autre partie aura lieu au Charleston, plutôt en soirée. Pour la partie nationale, quelles sont un peu les exclusivités, les surprises de ce disquaire en termes de vinyle?
Alors, il y en a énormément, hein. Faire une recommandation précise, c'est pas forcément possible. Moi, je sais qu'il y en a un qui me tape bien aux yeux, évidemment. C'est une réédition vraiment de luxe, avec beaucoup de bonus et des démo tapes de l'album Paranoid de Black Sabbath, qui est peut-être un des albums fondateurs du hard rock et un des plus grands albums de l'histoire du hard rock. Mais c'est pas tout, on peut retrouver aussi une réédition de Park Life de Blur, donc un album très important. Il y a aussi donc du live de Charlie Watts, l'ancien batteur des Stones, qui sort. Et après, pour les trucs un peu plus amusants entre guillemets, il y a un méga live de South Park avec beaucoup de groupes de hard rock, etc., et les personnages, etc., qui est une très belle édition qui sort. On a aussi par exemple la bande-son de Cheech and Chong, hein, pour les fumeurs qui pourront retrouver. Voilà, donc ça, en fait, ça part vraiment dans tous les sens. Pour nos amis français, on a, nous, je sais qu'un truc qu'on nous a déjà beaucoup commandé, c'est un maxi de M, un picture qui est très joli, un picture disque. Il y a du FFF aussi qui va sortir avec une exclusivité. C'est un maxi de FFF avec une exclusivité. Il y a des exclus de Daft Punk aussi qui vont sortir. Enfin, j'aurais pas de coup de cœur particulier parce qu'en fait, il y a énormément de références, il y en a plusieurs centaines, hein, et beaucoup de trucs très intéressants selon, selon ce que vous pouvez aimer ou écouter. Il y a un live qui est très très bon, par contre, des Killing Joke, un live de 2003 dans un festival nordique d'Europe du Nord, que je vous recommande vivement parce que c'est un live qui est sombre, qui est punk, qui est très violent et très agréable. Voilà, ce serait peut-être celui-là mon gros coup de cœur.
Peut-être pour terminer cette émission, quels sont pour toi les bonnes raisons de venir voir un disquaire, de venir acheter des CD ou des vinyles chez lui?
Je pense que la bonne raison numéro un, c'est de soutenir le petit commerce, de soutenir l'indépendance. Le truc tout con, ça va être, et ça c'est un truc que je m'évertue toujours à dire aux gens et aux clients, c'est que en effet, nous on n'a pas les prix verts d'une Fnac. Mais par contre, prenez le fonds de catalogue, prenez les choses qui sont sorties il y a longtemps, et vous verrez qu'en fait, à chaque fois, on sera beaucoup moins cher qu'eux. Donc, la balance, en fait, l'équilibre, il se fait rapidement si vous êtes vraiment un acheteur de disques. Ensuite, il y a le fait que, étant un petit commerce, un indépendant, on a un commerce de proximité. Et donc, il y a la proximité naturelle avec le client, les conseils qu'on va pouvoir prodiguer, parce qu'on est deux, mais on reste des passionnés avec une culture assez large, chacun dans nos domaines. Et moi je parle de la boutique là, mais c'est le cas de quasiment à 100% tous les disquaires. C'est un métier de véritable passionné parce que c'est un métier de gens qui galèrent. Et donc voilà, l'intérêt c'est d'aller pouvoir discuter, d'aller découvrir des choses en permanence, etc. Et puis c'est aussi soutenir les artistes d'une certaine manière parce que la plupart des disquaires vont travailler avec les petits artistes indépendants, avec les petits labels indépendants qui s'en mettent pas plein les fouilles en fait et qui ont besoin de ce soutien direct du public. Nous on distribue tous les albums locaux gratuitement en faisant une pub, en les mettant en bibliothèque, etc., en les mettant en avant le plus possible. Alors évidemment, comme on n'a pas une manne financière énorme, ça reste limité dans notre capacité d'action, mais c'est important et ça existe. Et puis ouais, voilà, moi je pense que l'essentiel de toute façon, ça va toujours être de soutenir le petit commerce et l'indépendant et de pas aller vers les multinationales qui... Voilà, on sait ce qu'on en pense.
Merci Tom pour ces belles paroles. Je rappelle à nos auditeurs que tu es aussi chroniqueur dans l'émission Bruit de Lune une fois par mois et que tu es aussi à la réalisation de l'émission MAD, donc des chroniques de vinyle sur notre antenne. Salut.
Salut, merci beaucoup.
C'est déjà la fin de cette interview. Pour rappel, Tom nous a présenté le Disquaire D qui aura lieu ce samedi 20 avril chez tous les disquaires indépendants de France dont la Maladisque fait partie. Pour l'occasion, des concerts seront organisés dans la cour de la Maladisque ainsi qu'au Charleston dans le courant de la soirée. Je vous propose de continuer notre semaine spéciale sport avec le cinquième et dernier épisode de la série « Comment Amiens se prépare au JO », une série réalisée par Axel Franck.
Entendez-vous dans vos écrans ? Montez ces intenses émotions qui viennent jusque sur vos bras. Émouvoir vos fils, vos compagnes. Au jeu, citoyens!
Dans le dernier épisode de ce podcast, nous recevons Thibaut Denis, entraîneur et directeur technique de l'ASC Judo, et Bruno Guévenoux, responsable de Amiens se prend au jeu. Aujourd'hui, nos deux invités parleront des athlètes Picard à suivre avant les JO, mais aussi de ce qu'Amiens Métropole met en place pour les aider dans cette aventure. À Amiens, les athlètes participant aux Jeux sont nombreux. Judo, athlétisme ou encore natation, de nombreux noms seront à suivre. 14 et bientôt 15 sportifs font partie de la team Amiens 24. Vous avez eu l'occasion de découvrir Tiffen Mochand dans notre premier épisode qui fait également partie de cette équipe. Aujourd'hui, Thibaut nous présente son jeune protégé, Lucas, pressenti pour participer aux Jeux Olympiques en judo.
Ouais, alors donc il y a quand même quelqu'un à suivre au club, qui s'appelle Luca Lomidze, qui a fini les championnats de France première division senior il y a 2 semaines à Caen. Il s'est classé 5e, donc il loupe le podium de peu, il perd en place de 3. Et donc il est toujours dans la course parce qu'en fait, en moins de 100, il n'y a personne qui se dégage au niveau en France, au niveau dans cette KT. Il faut savoir que toutes les catégories sont qualifiées pour les championnats, les Jeux Olympiques, comme ça se passe en France. Donc il reste quand même quelqu'un, une place à prendre en moins de 100. Donc on verra si la Fédé le sort sur les tournois internationaux pour essayer de faire trouver sa place. Ça va vraiment pas être évident, on le sait, il le sait, mais il s'entraîne fort, il est sur l'INSEP et il est à Paris et on espère quand même toujours un peu.
Eh bien merci Thibaut, nous suivrons avec intérêt les qualifications de Lucas. Je me tourne désormais vers vous, Bruno.
On sait que Amiens Métropole possède actuellement 15 potentiels sportifs amiénois ou picards, en tout cas qui vont potentiellement participer au JO. Comment la mairie, justement, ou enfin Amiens Métropole, les met en avant? Comment les faire connaître aussi de nos auditeurs de la ville? Comment ils vont être suivis, en fait?
Alors, aujourd'hui, on a, depuis deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, monté la team Amiens 24 avec 14 athlètes. En 2024, il y en aura un 15e, notre ami breakdancer, Camille Boutsalam, qui viendra rejoindre ce collectif. Donc, ça fait un moment qu'on suit ces athlètes, on les aide financièrement, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions aussi dans leur club, puisque dans ces 14, ce sont essentiellement, c'est essentiellement trois clubs. Il y a l'Amiens Université Club, la UC pour l'athlétisme. Il y a l'Amiens Métropole Natation pour la natation, comme son nom l'indique. Et puis il y a le sport nautique amiénois pour Erika Souzo. Voilà, donc trois clubs. On fait en sorte que ces athlètes se sentent bien dans leur club, qu'on puisse les répondre à leurs demandes, et puis bien sûr, l'objectif ultime, c'est qu'il y ait le plus possible d'athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce serait vraiment exceptionnel, mais on sait déjà que ça n'arrivera pas. Malheureusement, sur les 14, tous n'iront pas au jeu.
Ouais, malheureusement, mais est-ce que justement on aura bientôt une date? Quand est-ce qu'on saura que ces athlètes seront qualifiés?
Malheureusement, il y a des qualifications encore tardives, si je puis dire, par rapport à ce qu'on souhaiterait. Il y a quelques jours, je discutais avec Mewen Tomac, qui est quand même double champion d'Europe sur 50, 100, troisième sur 200 d'eau. Il faut savoir que Mewen, pour se qualifier, il doit passer par une course qualificative qui se déroule à Chartres. Donc ça se passe sur une journée, sur une course, et c'est très tardif. C'est au printemps 2024, donc vous voyez que c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, je vais pas dire jusqu'au dernier moment, mais encore très tardivement, il y aura des gens qui se qualifieront, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas dire s'ils le seront ou pas, quoi. Donc il faut attendre, voilà.
Ça sera la surprise, en espérant,
et j'insiste là-dessus parce que il faut bien savoir que, et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que ces jeunes sportifs très déterminés, il faut savoir que pendant 4 ans, je rebondis sur Mewen, je prends l'exemple de Mewen, pardon, Mewen Tomac, objectif ultime, c'est Paris 2024, il est champion d'Europe, il s'entraîne, avec Mathieu Neuillet, son entraîneur, ils ont un programme, il faut savoir quand même que, vous rendez compte, la pression qu'il y a, c'est que tout se joue sur une course ce jour-là. Il faut pas être malade, il faut pas avoir une gastro, il faut pas avoir des problèmes perso, et donc tout ça il faut prendre en considération aussi. C'est la vie d'un champion, c'est aussi ça. Donc il faut aussi comprendre que parfois il y a un stress, et je veux dire il y a de l'affect, tous les athlètes sont des humains, donc j'insiste là-dessus parce qu'il faut bien mesurer aussi la performance mentale qu'il faut réaliser. Il faut vraiment se concentrer et il faut pas sortir de son objectif, et c'est pas toujours évident.
Merci Axel pour ce dernier épisode de la série Comment Amiens se prépare au JO. Je vous propose de terminer l'émission en musique avec le morceau La Folia de Étienne Détré, l'un des artistes présents ce samedi à la Maladisque et au Charleston à l'occasion du Disque RD. Au revoir et à bientôt.
Sèche donc ces larmes et regarde la foule. Leur joie est immense. Viens les rejoindre dans leur danse. Baisse donc tes armes et regarde ma main. Elle s'ouvre à toi pour nous faire danser comme des rois.
rire qui s'acharne.